franceinter.fr.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Marc.
Les enseignants sont en vacances, mais la réforme des collèges continue de susciter un certain malaise.
Mi-décembre, la rectrice de Grenoble a adressé un courrier aux chefs d'établissement dont le Figaro livre la teneur ce matin. Elle leur demande de signaler les personnels qui entravent délibérément les journées de formation pour la réforme des collèges. Ces attitudes peuvent souvent se traduire par une présence silencieuse, passive ou à l'inverse, par une perturbation bruyante, par une forme d'agressivité ou encore par un refus de participer. La rectrice de Grenoble conseille donc au chef d'établissement de rappeler les règles de participation aux formations. Quant aux professeurs, je leur adresserai, dit-elle, une lettre qui sera versée à leur dossier. Elle n'est visiblement pas la première à envoyer ce type de courrier. Les rectorats de Toulouse et d'Orléans l'ont fait dès octobre. Colère des enseignants, colère des syndicats. La semaine dernière, le syndicat des inspecteurs a lui aussi écrit une lettre, mais à la ministre de l'Éducation, pour lui faire part des tensions inédites observées dans les collèges. Les profs de lettres classiques et d'allemand ont le sentiment d'être responsables des inégalités dans le système éducatif. Conclusion du syndicat, il est aujourd'hui peu réaliste de mettre la réforme en œuvre sur 4 niveaux d'enseignement. Simultanément.
Les enfants sont donc en vacances, mais une partie de la presse s'interroge sur les jeux dangereux dans les cours de récréation.
La Voix du Nord relaie ce matin une enquête initiée sur le territoire arrageois. 2810 élèves du CE2 au CM2 ont été interrogés avec l'accord de leurs parents. Sur ces 2810, un millier affirme connaître des jeux dangereux comme bloquer sa respiration, jeu du foulard et autres ponts massacreurs. Sur ce millier, 487 y ont déjà joué, soit 17,3%. Un résultat bien au-delà des chiffres qui circulent en France, la dernière enquête de 2012 évoquait plutôt 10%. On constate aussi qu'il y a peu de différence entre les écoles rurales et urbaines, que les filles sont autant concernées que les garçons et qu'il n'y a pas de lien avec le milieu social. C'est la première enquête en France à pousser l'analyse aussi loin. Son auteur, Michael Vigne, enseignant-chercheur, explique qu'il est aujourd'hui fondamental de sensibiliser les enfants et les enseignants, mais aussi le personnel de cantine, les animateurs, car les jeux dangereux sont tabous. Pourtant, on apprend bien à nos enfants à ne pas jouer avec le feu, et c'est pas pour autant qu'on leur cache la gazinière.
Le prix du pétrole n'en finit plus de baisser, on en parlait tout à l'heure dans le journal de 8h.
Alors, faut-il s'en réjouir d'un gazole à moins d'un euro le litre? Question posée par Lacroix ce matin, ça réduit la facture énergétique. Moins 20 milliards d'euros cette année, chiffre corroboré par les Échos qui ajoutent pour certaines industries grandes consommatrices d'hydrocarbures comme les compagnies aériennes, c'est une bouffée d'oxygène et pour les ménages c'est un coup de pouce au pouvoir d'achat. La baisse du prix du pétrole n'est donc pas déflationniste selon l'analyse de Guillaume de Calignon. La Croix s'intéresse aussi aux retombées sur l'environnement. Un pétrole pas cher pourrait aussi être une bonne nouvelle. N'y voyez pas de considération écologique, ce sont les arguments financiers qui vont pousser les compagnies pétrolières à réduire leur production. Concrètement, elles ne vont pas avoir envie d'investir dans des forages coûteux si ça ne doit pas rapporter. Mais il n'y a pas que du bon à tout cela, car si la baisse continue, les pays producteurs comme ceux du Golfe auront épuisé leurs économies d'ici 5 ans, selon le FMI. En France, l'avenir de certaines filières pose question à l'État actionnaire. C'est le cas de l'entreprise Vallourec, numéro 1 mondial des tubes sans soudure, qui va supprimer 600 postes en France. Ou encore de CGG, spécialisé dans l'analyse et la cartographie des gisements de pétrole, qui s'est séparé de 30% de ses salariés en moins de 2 ans.
L'essence et le gazole au plus bas depuis très longtemps, Michel Sapin. Ça va rendre un peu moins douloureuse la hausse prévue au 1er janvier prochain, vous nous en rappelez le montant, 3 centimes pour le diesel, c'est ça?
Oui, mais je pourrais vous dire que c'est moins 1 centime pour certains types de carburants qui sont particulièrement respectueux de l'environnement.
Et très peu utilisés.
Bah, ça les incitera d'autant plus à les utiliser. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Il vaut mieux renchérir ce qui est mauvais pour l'environnement et baisser ce qui est meilleur pour l'environnement. Donc on est là sur une taxe qui est tout à fait dans l'optique de la COP21 qui a comme objectif de faire évoluer progressivement les habitudes de chacun. Mais cela dit, vous avez raison, dans un contexte de baisse du prix du pétrole, ce qui était le cas déjà au 1er janvier dernier, comme au 1er janvier prochain, personne ne s'apercevra de cette hausse.
Laetitia Gaillet dans la presse également ce matin, le résultat des élections législatives en Espagne.
La droite au pouvoir reste en tête, mais Mariano Rajoy, le Premier ministre, n'a plus la majorité absolue pour gouverner, résume Sud-Ouest ce matin. L'ensemble de la presse française et espagnole est unanime, c'est la fin du bipartisme gauche-droite, c'est une Espagne à quatre, avec en plus la gauche radicale de Podemos et le centre de Ciudadanos. Nous allons devoir apprendre à vivre ensemble, explique El País dans son édito, sans majorité réelle et donner le meilleur de nous-mêmes pour assurer la stabilité stabilité du système. Oui, les négociations pour former un gouvernement seront complexes, mais les électeurs ont placé beaucoup d'espoir dans les urnes. Ils veulent une politique plus consensuelle, car pendant 4 ans, il n'y a pas eu en Espagne de vrai dialogue politique.
Et pendant ce temps, en France, les papis font de la résistance.
Une du Parisien aujourd'hui en France qui fait le parallèle entre l'âge de la nouvelle classe politique espagnole avec la française, parallèle également avec le retour de Bernard Tapie en politique. Vous trouvez ça osé? Suivez le guide avec Nathalie Schuck. Tandis que de ces millions trentenaires de Podemos et Ciudadanos se frottaient aux urnes hier en Espagne, un ancien faisait son comeback en France, Bernard Tapie, 72 ans. Notre classe politique est dominée par les seniors et les pépi-boomers. Le doyen des sénateurs, Paul Vergès, a 90 ans. Mais attention aux électeurs de balayer devant leur porte s'ils veulent du sang neuf. Ils ont quand même tendance dans l'isoloir à préférer les élus plus expérimentés. Ainsi Juppé, 70 ans. Premier mandat, il y a 32 ans. Jean-Claude Gaudin, premier mandat, il y a 37 ans. Jean-Marie Le Pen, premier mandat, il y a 59 ans. L'animal politique français, il faut le savoir, a l'espérance de vie la plus longue d'Europe. Et quand on est une jeune pousse, eh bien c'est galère. Sébastien Lecornu, 29 ans, maire de Vernon dans l'Eure depuis l'an dernier, reconnaît être un ovni. Lors de la campagne l'an dernier, un ex-ténor du RPR qui voulait lui barrer la route disait ceci: « On va quand même pas donner 40 millions d'euros de budget à un genou ». Ajoutez à cela le retour de Bernard Tapie, et là c'est le pompon, il n'y a qu'à lire les éditos pour s'en rendre compte. La Voix du Nord parle du retour d'un mauvais nanar, les DNA de la blague à nanar. Assister au retour de Bernard Tapie en politique, c'est comme écouter un tube d'il y a 30 ans. La musique est connue et elle fait sourire. Pour l'UMA, pas de doute, c'est le nanar de l'année. Alors, pas d'édito sur Platini ce matin. La presse sportive se contente plutôt d'attendre le verdict de la commission d'éthique de la FIFA. On notera quand même dans l'équipe ce matin le soutien de Youri Djorkaeff, ancien international. Ça fait chier pour Platoche. Le soutien donc, et la critique sur le fond de sur le foot machine à fric. On n'arrive plus à contrôler le football aujourd'hui autrement que par l'argent, c'est dramatique. La preuve par l'OM, la Provence Sport après le match nul hier contre Bordeaux. Il faut vraiment aimer l'OM pour s'infliger un tel spectacle. La purge, a même écrit Alexandre Jacquin. La purge aussi, on l'imagine, pour le présentateur de Miss Univers 2015. C'était hier soir, le concours à Las Vegas. Miss Colombie est en train de saluer les spectateurs. Elle est Miss Univers, mais le présentateur stoppe.
Ok, folks. I have to apologize.
Steve Harvey a bien du mal, voilà, il s'est trompé. Miss Univers n'est pas Miss Colombie, mais bien Miss Philippines. On appelle ça faire une Vanessa Paradis.
Oui, une boulette universelle. Merci Laetitia Gaillet et bonjour à Sophia Aram.